Radio Django, La Rose des Vents.
Et voilà, on ouvre notre nouveau chapitre ce soir, puisque c'est notre troisième volet sur cette série consacrée à l'Inde. Pôle Sud accueille dans ses murs du 8 au 11 novembre, le festival du film indien Ciné Masala, consacré cette année à la perception et aux représentations du corps en Inde. Cultivé Lausanne et La Rose des Vents ont le plaisir de vous faire découvrir avec des membres du comité d'organisation du festival et une représentante même de l'IAL, l'Indian Association of Lausanne, cet événement l'Inde à corps perdu. Alors tout d'abord, et avant d'entrer dans le vif du sujet, Daniel, est-ce que vous pourriez brièvement nous rappeler ce qu'est le Ciné Masala que nous avions par ailleurs déjà reçu pour sa quatrième édition?
C'est un festival de films pour découvrir le sous-continent indien autrement. Ce festival regroupe des chercheurs et chercheuses de l'Université de Lausanne, travaillant sur l'histoire, les religions et les langues de l'Asie du Sud, comprenant l'Inde, le Népal, le Sri Lanka et le Pakistan, entre autres. Leur singularité est d'avoir choisi le cinéma pour ouvrir leur domaine de recherche à un plus large public. Et c'est dans cette perspective que les projections, fictions et documentaires sont projetées sur le campus de l'UNIL et au cœur de la ville de Lausanne.
Mais alors, comment est-ce que ces films sont-ils choisis, Jean-Luc ?
Ou alors, depuis 5 ans, c'est le thème du festival qui reste déterminant dans le choix des films. La richesse des projections repose sur la diversité des auteurs asiatiques ou d'ailleurs, qui abordent des sujets traditionnels comme des sujets plus contemporains et parfois déroutants, comme l'Asie du Sud se caractérise par une grande variété de langues et de cultures. La richesse de cette démarche est de nourrir ce festival par un regard original et authentique sur une région du monde encore méconnue.
Ouais, depuis 5 ans, d'ailleurs, le Cinéma Sala propose de décrypter l'Asie du Sud selon des angles et des thématiques originales et variées. Ce soir, le corps est à l'honneur, le corps comme étant à soigner, transcender ou à transformer. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir 3 membres du comité d'organisation du festival Ciné Masala, Daniel Feller-Conus, Rosita Pastore et Nicolas Pozza. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à vous sur Radio Django. Nous avons également une autre invitée, Ruby Bakshi Kurdi. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire générale de l'association Indian Association of Lausanne. Tout d'abord, faisons peut-être un petit peu le pédigré de nos différents invités. Tout d'abord, vous, Daniel Feller-Conus, vous êtes titulaire d'un doctorat en langue et civilisation orientale. Vous êtes chargé de cours de sanskrit. On dit bien sanskrit, c'est ça ?
C'est ça, oui.
Voilà, de sanskrit. C'est à l'Université de Lausanne. Vous êtes également secrétaire de l'association Ciné Masala et vous participez depuis 2014 à l'organisation de ce festival. Rosina Pastore, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes, vous, assistante diplômée et doctorante en études indiennes dans la section de langue et civilisation slave et d'Asie du Sud à l'Université de Lausanne, la faculté des lettres. Vous avez rejoint le comité d'organisation de Ciné Masala en 2016.
Oui, tout à fait, c'est correct.
Merci. Nicolas Pozza, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître d'enseignement et de recherche en langue et littérature hindi dans la section des langues et civilisations slaves et d'Asie du Sud à l'Université de Lausanne, toujours en faculté des lettres, elle n'a pas changé depuis 20 secondes. Vous êtes très impliqué dans l'organisation du Ciné Masala, vous êtes aussi membre du comité de l'association La Route de Chai, qui soutient d'ailleurs le festival. Mm-hmm. Beau programme, belle brochette ce soir.
Oui.
En tout cas, on est avec une délégation de l'université, ça c'est incontestable. Bonsoir Ruby Bakshi Kurdi.
Bonsoir.
Vous n'êtes pas membre de ce petit comité qui est à ma gauche, mais vous êtes titulaire d'un diplôme post-grade en business et management. Ça fait beaucoup rire notre technicien Nico. Pas du tout pourquoi. Vous enseignez dans une université privée en Suisse, vous êtes d'origine indienne et vous regardez, votre regard sur les représentations du corps en Inde viendront nourrir nos échanges autour des films choisis pour cette 5e édition du Ciné Masala. Commençons peut-être, qu'est-ce qui vous a conduit à consacrer une édition entière au corps, Nicolas Pozza ?
Donc, comme l'a dit Jean-Luc tout à l'heure, chaque année, le comité d'organisation choisit un thème fédérateur pour sélectionner nos films, nos fictions et documentaires. Uh-huh. Puis depuis quelques années déjà, c'était un thème qui revenait par quelques films comme ça. Et il s'est encore développé l'année passée, parce que le thème de l'année passée, c'était l'Inde au féminin. Donc on a eu plusieurs documentaires et fictions qui tournaient autour de la place accordée aux femmes en Inde, et donc aussi des violences qui sont liées du manque de parole qui leur est attribué. Et le corps était quelque chose de prégnant déjà dans l'édition de l'année passée. Et du coup, cette année, on s'est dit, bah, tiens, on pourrait cette fois développer ce thème-là, non seulement parce que bah, il couvre de nombreux sujets, comme on le verra tout à l'heure pendant les interviews, et puis aussi parce que ça a quelque chose de très concret, et donc les films qu'on a choisis et documentaires, je pense, représentent bien ce côté concret des multiples facettes du corps indien.
Oui, mais alors pourquoi le corps perdu ? Pourquoi cette expression ?
Alors, si je peux me permettre d'y répondre, donc à corps perdu, alors bon, tout d'abord, on cherchait évidemment un titre un petit peu accrocheur pour notre édition de Cinéma Sala. Donc l'idée du à corps perdu veut dire en fait à fond, avec enthousiasme. Alors tout d'abord, c'était pour transmettre notre enthousiasme, à montrer ces films, à parler de l'Inde, qui est notre sujet à tous et à toutes. Là-dedans, il y a aussi l'idée qu'on va pousser le corps à bout, qu'on va l'utiliser à fond, comme par exemple on le fait dans le yoga, pour obtenir un certain but. Et puis finalement, le corps peut être aussi littéralement perdu, comme on va le voir dans le très beau film Between the Lines, qui parle des hijra, donc ces hommes qui souhaitent devenir des femmes et qui en fait se castrent volontairement pour devenir des femmes et qui perdent vraiment une partie de leur corps.
Mais Daniel, comment se représente-t-on le corps dans le monde hindou ?
Bon. Nicolas, pour toi.
Alors, en d'autres mots, comment le corps est-il pensé et décrit ?
Alors, bon, peut-être un des éléments de base, parce que c'est tellement complexe, hein, mais on va essayer de faire ça.
Oui,
des éléments de base, c'est la question donc du renaissance, hein, du retour cyclique dans ce monde, et ce but depuis de nombreux siècles de pouvoir se libérer de ce samsara, de ce cycle, de ce monde de transmigration. Et du coup, le corps est autant un obstacle qu'un moyen de libération pour arriver à ce but, que le moyen donc, pour arriver à ce but. Et de nombreux systèmes philosophiques, techniques ont été mis en place autour du début de notre ère, avant déjà même, notamment par les pratiques de l'ascèse et plein d'autres pratiques. Et il y a notamment un système, je ne vais pas être trop long, mais c'est un système qui est très important, je crois, pour comprendre et le yoga et l'ayurveda et tous les autres systèmes. C'est celui du Samkhya, qui énumère tous les éléments, les tattvas, du corps, du mental, des sens, etc. Donc il y a 25 éléments qui sont très précis et qui divisent le corps en éléments grossiers comme l'eau, le feu, etc., ou des éléments plus subtils. Et à la base, au départ de ça, il y a cette dichotomie entre le purusha, qui est l'élément qui est la conscience, l'élément non matériel, et la prakriti, qui est la nature primordiale, d'où évolue tout le reste. Et le but du Samkhya et ensuite du yoga originel, c'est d'arriver à comprendre cette distinction entre ces deux éléments à la base. Et c'est ce qui va développer toutes les techniques de yoga, d'ascèse, etc., et les différentes conceptions du corps.
Mais comment expliquer en fait ce champ de tension dont on parle beaucoup entre le corps comme obstacle et le corps délivrant ? C'est difficile en fait à saisir, je veux dire, quand on ne pratique pas le yoga. Est-ce que vous auriez une explication ? Daniel
Flipponus.
On peut ici tourner vers certains textes, en fait les textes de loi. Et c'est très intéressant, à mon avis, parce qu'il nous parle de ce qu'on appelle normalement les purushartha, c'est-à-dire les buts de la vie d'un homme, homme ou femme, hein, ici, terme générique. Donc, les purushartha sont d'abord au nombre de trois. Il y a dharma, la religion. Il y a artha, ce qui est économie ou argent, on pourrait dire. Et il y a kama. Kama, c'est le plaisir au sens large, la sexualité, peut-être dans un sens plus étroit. Donc normalement, toute personne est censée satisfaire ses trois besoins fondamentaux au cours de sa vie, peut-être certains un peu plus que d'autres, en fonction de notre caste, de notre position, de notre âge, etc. Et donc ça, c'est très intéressant à mon avis, parce qu'on voit que karma est intégré au même titre que la religion, que l'argent. Donc pour qu'une personne soit pleinement, on pourrait dire, épanouie, il faut qu'elle s'occupe aussi des plaisirs. Et évidemment, par rapport à notre religion chrétienne, karma est plutôt, disons, nié ou refoulé. On parle du péché originel. Dans l'optique hindoue, ce n'est pas du tout ça. Donc karma a sa place au même titre que la religion. Et donc, dans un certain sens, karma est valorisé. Les plaisirs sont valorisés. Il faut leur faire une place dans la vie. Après, quand on tourne vers des religions plus ascétiques, eh bien là, au contraire, ces mêmes plaisirs deviennent un obstacle parce qu'il faut les refouler pour accéder à la délivrance. Alors parfois, le corps est utilisé dans cette démarche-là et souvent le corps qu'on va peut-être plus torturer, on va faire de l'ascèse dans une optique de brûler les péchés. Et donc tout ça est censé nous mener à la délivrance. Alors la délivrance de quoi, vous demanderez ? Eh bien justement la délivrance de ce cycle éternel des renaissances. Peut-être à nous, dans l'Occident, ça nous paraît amusant de nous imaginer renaître sous toutes sortes de formes diverses. On se dit, j'aimerais bien être un chat parce que les chats dorment tout le temps et c'est très agréable. Mais si on se place dans une perspective où on imagine que ça va se reproduire sans aucune fin, toujours et encore, qu'on va renaître, qu'on va vieillir, qu'on va mourir, eh bien, on réalise en fait la pénibilité de la chose et c'est là qu'on va souhaiter en fait accéder à la délivrance. Alors, cette délivrance, pour différents courants religieux, elle prendra des formes diverses. Pour certains, comme les bouddhistes, ça sera l'extinction. Pour d'autres, ça sera une forme de béatitude. Et on va pouvoir y accéder par différentes formes de religiosité. Ça pourrait être la dévotion dans certains courants envers un Dieu suprême. Dans d'autres, c'est par certaines connaissances qu'on va obtenir la délivrance. Dans d'autres courants encore, c'est justement par l'ascèse, en brûlant tous les péchés, tout le karma, c'est-à-dire tout le poids des actions qu'on a commises qui nous alourdissent et qui nous retiennent à cette vie.
En quoi le yoga permet justement, par ses différentes postures, de passer aussi à cette délivrance, enfin, de que ça permet en fait, cette délivrance, cet exercice du yoga. Enfin, c'est pas pour...
Oui, tout à fait. Moi, je trouve que si on veut, pour exemple, parler de l'origine du yoga, bon, c'est une question très, très complexe. En fait, c'est pas sûr, pour exemple, que le yoga s'était originé 5000 années avant, mais il y a, par exemple, si on veut parler du texte qu'on connaisse le plus, comme le Yoga Sutra de Patanjali, les chercheurs ont démontré qu'il y a différentes traditions de yoga avant le Yoga Sutra qui ont été après codifiées dans ces Yoga Sutras. Et on peut bien sûr dire que le Yoga Sutra a été composé entre le 3e et 4e siècle de notre ère. Mais comme je vous ai dit, c'est très donc compliqué de dire où, quand il y a eu cette origine du yoga. Il faut aussi dire que quand on parle de yoga et aussi de cette tradition textuelle des Yoga Sutras, qui sont un peu le texte du yoga classique, dit comme ça, il faut aussi dire que les sutras sont d'abord des aphorismes. Donc, c'est très compliqué, sont très compliqués à interpréter. Et après des Yoga Sutras, s'est développée en fait toute une tradition des commentaires qui sont très importants parce qu'ils ont été composés dans les siècles, jusqu'à notre ère.
Bon, ça fait 5000 ans qu'il existe.
Donc,
oui, quand même.
Oui et non.
Il y a toute une évolution.
C'est très compliqué.
Le corps dans le yoga traditionnel est donc considéré comme un instrument pour parvenir à la délivrance grâce à différentes postures et respirations. Écoutons à ce sujet donc un extrait du documentaire Yoga, l'art de vivre.
Ces exercices nous donnent une certaine ouverture et nous, un certain détachement des idées et des désirs que nous voudrions voir se réaliser à tout prix. Et cela nous rend plus libres, plus disponibles.
En quoi la tradition du yoga s'inscrit honore la langue, le mot et le son, Rosina ?
Alors ça, c'est une question qui, bon, c'est pas seulement par rapport au yoga, mais c'est par rapport à toute la tradition aussi textuelle et culturelle indienne, en fait. La parole, c'est vraiment central, par exemple, parce qu'on pense que les textes sacrés des hindous, les Védas, ont été révélés aux hommes. Donc, la parole a vraiment une place centrale et l'instruction vient de maître à disciple en parlant. Après l'écriture, c'est vraiment une étape après la communication verbale. Et par rapport au yoga, pour exemple, un formula mantra qui ont souvent dit c'est le Om, mais bien c'est vraiment un formula qui on peut dire met en connexion le microcosme avec le macrocosme, parce que dans la syllabe de Om on pense qu'on a le résumé de toute l'évolution de l'univers, parce que dans la pensée hindoue traditionnelle, l'évolution de l'univers est associée à les lettres de l'alphabet.
Il y a 52 sons, semble-t-il.
Oui, oui, tout à fait. Donc, l'évolution de l'univers,
on utilise
tout à fait.
Dans le yoga.
C'est associé à les lettres de l'alphabet, mais quand même, on fait un résumé dans la syllabe de Om.
Et une dernière question concernant ces sons. Est-ce que vous pensez qu'un occidental peut s'approprier ce Om ? Parce que ça reste quand même quelque chose d'intrinsèque, peut-être, à la pratique du yoga en Inde.
Alors, moi, je pense que ça dépend du point de vue duquel vous voyez le yoga. Parce que...
Non, je vous en prie,
Oui, il faut aussi dire que le yoga, au début, c'était une voie pour se livrer, pour la libération. Mais en Occident, on le voit plutôt comme une discipline physique.
Justement.
Et puis, il y a aussi la question si vous l'associez à une forme de religiosité ou pas. Donc, c'est vraiment très compliqué comment vous l'utilisez ou pas. Il faut aussi dire que les mantras, parfois, ont des significations, parfois, ils n'ont pas. Donc, ça dépend de la perspective.
En parlant du yoga, il faut savoir aussi que rire fait partie des techniques de cette pratique pour améliorer sa santé. À ce sujet, on va encore écouter un extrait d'un documentaire d'Arte, Yoga de vivre.
Et c'est donc ici qu'est né le maître des maîtres, Tirumalai Krishnamacharya. Un jour, je l'ai suivi et j'ai expérimenté une nouvelle fusion du corps et de l'esprit. Alors j'ai voulu savoir d'où venaient ces exercices et ces postures. Appelé Asana.
Si je me souviens bien, il donnait trois raisons d'étudier le yoga. La santé du corps, la santé de l'esprit, c'est-à-dire la pureté de la pensée, le courage et la persévérance.
Et on le disait à l'instant, hein, le rire fait partie intégrante du yoga. Voici cette fois-ci l'extrait du documentaire de Arte Yoga, Art de vivre.
Nous faisons un film sur le yoga en Inde. Vous pratiquez le yoga du rire, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est un mélange de yoga, de gymnastique et de rire.
Et aussi de méditation.
Ruby, vous pratiquez cette technique en Suisse avec des personnes âgées. Le rire, source de bien-être, mais qu'apportent au juste ces exercices de yoga ?
Oui, je fais en Suisse avec les personnes plus âgées et même avec mes enfants, parce que ça, c'est quelque chose de très, très bien pour le corps. Et ça aide beaucoup à guérir les problèmes mentaux comme la dépression, l'anxiété et la tension aussi. Parce que maintenant, presque tous les enfants, ils ont le problème du stress. Même ils ne comprennent pas c'est quoi le stress, mais ils disent « Maman, j'ai stress, j'ai mal à la tête ». Pour cette raison, c'est nécessaire. Le yoga, elle aide beaucoup pour faire les choses qui sont bien. Même pour le problème de respiration, comme bronchite ou l'asthme, et aussi améliorer les fonctions de poumons.
Le yoga et les massages font partie des piliers de l'Ayurveda. On va écouter en fait un extrait du film Ayurveda, son 4.
Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Et ce soir, on se fait du bien sur Radio Django. On parle Ayurveda dans le cadre du festival Cinéma Sala. Jean-Luc.
Oui, alors c'était juste quand même pour dire que c'est un festival de films. Donc il y a des films, on parle beaucoup ce soir. Mais il y aura un film à 18h au campus de l'UNIL, au foyer de la Grange d'Origny. Ayurveda, l'art de vivre à 18h.
Voilà, parfait. Daniel, on voulait redonner la parole à notre
invité. Alors effectivement, Ruby, voilà, comme on disait, le yoga et les massages font partie des piliers de l'Ayurveda. Quelle place occupe Ruby les massages dans la médecine ayurvédique?
L'Ayurveda est une connaissance de vie. C'est la connaissance de la vie. Les deux, yoga et Ayurveda, sont le moyen d'acquérir une meilleure santé. Dans la douceur de la force de la couleur au corps, et aussi, ça aide beaucoup pour diminuer l'effet du vieillissement, de aging. Ça donne aussi une bonne vision, parce que maintenant, avec les technologies, tout le monde est avec les iPads, iPhones, tout le temps à cause de screen. Ça aide beaucoup s'il fait l'exercice, bon exercice avec yoga. Et aussi, ça nourrit le corps, donne une fermeture aux membres et aussi l'avantage des habitudes de sommeil.
Finalement, on pourrait se demander aussi en quoi le massage des bébés est toute une coutume qui fait partie intégrante des soins quotidiens en Inde. Et quelle symbolique porte cet acte quand on parle du Chantala, Ruby?
En Inde, le massage des bébés est une coutume qui fait partie intégrante des soins quotidiens. Le massage offre aux enfants une communication et un dialogue avec ses parents et contribue à son équilibre général. Mais c'est avant tous les moyens de communiquer avec son bébé pour lui témoigner son amour, des gestures porteurs de messages qui adorent le bébé et construire non seulement le love with the baby.
L'amour avec le bébé.
Oui. C'est une bonne forme d'exercice pour les enfants. C'est bon pour la digestion et le contrôle de la formation de gaz. Il stimule la circulation de sang. Et aussi, ça développe la puissance de résistance. Et la dernière, c'est une bonne technique de relaxation pour les enfants.
Alors, si l'Ayurveda reste effectivement une technique très douce pour les enfants, elle joue un rôle fondamental donc, dans justement les excès de stress qu'on peut connaître en Occident. Manque de sommeil, alimentation, prise de médicaments. En sachant que l'Ayurveda répond aussi à tous ces dysfonctionnements en fait, du corps humain. Écoutons à ce sujet un extrait du documentaire d'Anand Pauline à découvrir au foyer de la Grange de Dorigny demain soir et l'Ayurveda pour soigner une société malade de son stress.
If you have a bicycle, you want a car. If you have a car, you want a jet. And if you have a jet, you want to be younger. So there is no end to stress factors. In Ayurveda, from the beginning, they have said that the first factors that can create a disease are related with the human intelligence. They call it in Ayurveda prajna, and they call it prajna prata. The mistake of the human intelligence is going to be the deeper factor for the creation of the disease. How did they know 2,000 years ago that we are going to come at a point at the year 2000 that stress is going to be such a factor in our life?
Voilà, le stress, hein, c'est un facteur passablement délicat, mais qui est, on l'apprend, traité par l'Ayurveda, Daniel.
Et on pourrait se demander, Ruby, si l'Ayurveda serait une médecine plus préventive que curative.
Ayurveda, c'est préventif, parce que si on déjà sait c'est quoi the things that need to be done in advance, then we can always cure the problems for the future.
Ouais, effectivement, qu'on prévient, on le prévient plutôt que de devoir guérir. Hein. On prévoit les choses à l'avance au lieu de devoir les soigner après coup.
Pour oui, Nicolas, on vous écoute. Rajouter un élément.
Un petit complément. Absolument. C'est vrai, ça se veut préventif. Et puis, c'est en quelque sorte de maintenir l'équilibre des trois doshas, hein, le vent, le flegme et la bile. Donc, tant qu'il y a cet équilibre, le corps est en santé. Mais très souvent, que ce soit par le stress ou d'autres choses, le déséquilibre se crée. Et du coup, ça peut tout à fait être curatif aussi. On voit dans le documentaire qu'on va projeter demain soir, en effet, où les médecins soignent tout type de maladie, que ce soit de la schizophrénie ou cancer. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils prétendent. Mais donc, il y a cette dimension curative très importante aussi, quoi.
Et c'est pourquoi, en fait, Kiran Vyas, un acteur déterminant dans le développement de l'Ayurveda en Europe, fondateur des centres Topovan, ce sont des centres de yoga et d'Ayurveda, nous explique que finalement, l'Ayurveda, c'est plus...
Ayurveda, pour moi, c'est une pédagogie de la santé qu'une science médicale. Quoiqu'en Inde, l'Ayurveda est une médecine. Puis très souvent, on prend la partie philosophique de l'Ayurveda où on prend le côté art ou le côté science de l'Ayurveda ici en Occident. Mais tout d'abord, pour moi, c'est une pédagogie, c'est une façon d'éduquer l'être humain dans sa totalité pour aller vers, comme dit l'Ayurveda, vers le bonheur, qui est le contraire de malheur et maladie, vers l'épanouissement de l'être.
Radio Django, la rose des vents.
Mais jusqu'où cette recherche du bonheur portée par l'Ayurveda permet de disposer de ce corps et de se l'approprier? À l'origine de cette réflexion, les mots d'une jeune étudiante de Kolkata qui accepta de répondre aux questions d'une journaliste. Dès l'enfance, on pourrait nous faire comprendre que nous sommes un poids pour la société. On nous apprend à avoir honte de notre corps, à nous cacher.
Oui, et pourtant, c'est vrai qu'au niveau féminin, il y a des ornements incroyables, que ce soit le sari, des beauty pearls, la danse, l'Inde. Enfin, c'est une terre de contraste qui invite à la féminité. Et le corps ne cesse d'être mis en valeur, mais s'approprier ce corps quand on est une femme en Inde semble parfois difficile. Alors, c'est vrai que là, il y a un film qui s'appelle Between the Lines, hein, qui passera samedi soir, qui est quand même un film vendredi soir, là, grosse erreur, merci Nicolas. Vendredi soir, à Jean-Jacques Mercier, donc Pôle Sud, Jean-Jacques Mercier, ouverture des portes à 19h30, le film sera à 20h. Et Between the Lines, tu peux nous parler un peu de ce film qui est surprenant, c'est toi, Rosina.
Rosina Pastore.
Oui, alors il faut dire tout d'abord qui sont les hijra. Et les hijra, bon, on peut dire qu'ils sont des transgenres. Ils sont nés en tant que hommes ou parfois hermaphrodites. Et ils sont hijra parce qu'ils adoptent des vêtements et un comportement propre des femmes. Ils font partie d'une communauté de hijra. Et en fait, en particulier la relation dans la communauté entre la chef et les disciples est très importante. Les gens qui font partie de cette communauté d'Hijra sortent de leur propre caste ou quand même communauté sociale pour entrer dans celle-là des Hijra. Et elles sont dévouées à la grandesse, mais quand même problèmes, elles ne sont pas conformes au code de comportement des femmes indiennes. Parce que, par exemple, ils sont un comportement plutôt provocatif et vulgaire, qui n'est pas le comportement qui est traditionnellement un attribué aux femmes en Inde. Et par rapport à leur rôle dans la société, en particulier par rapport à l'hindouisme, elles participent aux cérémonies des mariages ou pour la naissance, les célébrations pour la naissance des fils. Parce que ils croient qu'ils ont un pouvoir pour donner des bénédictions, des souhaits, des bons souhaits pour les fils, et aussi pour lorsqu'il y a un mariage, ils souhaitent la fertilité à la couple, parce que c'est très important la question de la procréation, comment on peut dire, de la continuation de la famille. Et puis, c'est normal qu'ils sont aussi le côté un peu, comment on peut dire, pas mauvais, mais sont aussi, les gens sont aussi effrayés par l'heure parce qu'ils sont aussi le pouvoir de maudire. Ça, c'est la question. On ne sait pas si ce pouvoir de maudire, peut-être ça vient de ce côté ascétique dû à la castration. Et bien sûr, les hijras gagnent de l'argent et des autres dons pour leur participation à ces cérémonies.
Oui, alors ce qui est aussi extraordinaire, c'est que il faut parler un petit peu du film, comment il a été fait, parce que ce film, c'est quand même très intéressant, parce qu'il est vu à travers les yeux d'une femme qui est photographe et qui a aussi envie d'écrire l'histoire des hijras. Est-ce que tu peux décrire ce film, parce que je trouve que la forme aussi est vraiment étonnante.
En effet, c'est assez. Ça pose la question de savoir si c'est une fiction ou un documentaire. Donc, ça se veut un documentaire, mais c'est vrai qu'à la base, c'est donc un réalisateur allemand, Thomas Wartmann, qui sera là vendredi soir pour répondre aux questions du public après la projection du film. Et donc, c'est ce réalisateur allemand qui a monté ce film. Mais on suit une journaliste indienne de New Delhi, Anita, photographe, et qui a toujours été fascinée par ce monde des hijras. Elle raconte à un moment donné qu'en face de chez elle, quand elle était enfant, il y avait justement une maison où habitaient ces hijras. Et il y a toujours cette fascination, comme l'a montré Rosina, crainte, fascination, attrait, distance, tout ça. Et donc, elle a envie de suivre, elle va à Mumbai, et elle a envie de suivre quelques-unes de ces hijras.
Oui, elle pose aussi des questions très directes.
Très directes.
Parce que vraiment, on parle vraiment de sexualité, on parle d'envie des hommes, en fait, des relations que les hommes veulent entretenir avec les hijras, qui est quand même quelque chose de surprenant. Parce que c'est vraiment, on casse les tabous. Et là, elle a osé poser ces questions. Et il faudrait qu'on pose cette question aussi. Comment il a fait le réalisateur pour construire ça? Parce que c'est très, très prenant, quoi, comme film à ce niveau-là.
Oui, autant les questions en effet sont très directes, autant les réponses sont très brutes. Hein, il n'y a pas de pincettes. Et justement, les deux, trois personnages principaux, hijra principaux ou principales qu'on suit, sont fascinantes par leur façon de commenter, d'expliquer leur situation. Et c'est vraiment un reportage qu'il faut voir et qui nous montre les choses directement, comme tu le disais, mais sans voyeurisme.
Mais qu'est-ce que ce film, en fait, traduit des représentations du corps en Inde, en sachant que si les femmes, les transgenres, pardon, peuvent s'assumer, les femmes, malheureusement, en fait, ont encore beaucoup de chemin à faire dans cette voie. Peut-être qu'on pourrait aussi poser la question à Ruby.
Est-ce qu'on peut répéter la question, peut-être, Daniel, en deux mots, la question.
Ce serait intéressant de comprendre qu'est-ce que ce film dit sur les représentations du corps en Inde, en sachant que quand on est transgenre, on peut en fait s'affranchir de certains codes et disposer de son corps, alors que quand on est femme, c'est beaucoup plus compliqué. Qui aimerait répondre à cette question?
Nicolas Potier.
Allez, je me lance.
Nicolas.
Merci, au moins téméraire. En deux mots, brièvement.
En deux mots. Justement, de nouveau, ce documentaire est fabuleux parce qu'il montre tout le paradoxe entre ces femmes hijra qui ont une liberté d'expression et d'action que n'ont pas les femmes en général, mais qui se retrouvent en même temps exclues de la société. et les femmes qui sont bien intégrées dans la société, mais qui ont plein de limites que leur impose cette société avant tout patriarcale, etc.
Alors, ça sera Between the Lines, hein, vendredi soir à Pôle Sud, à 20h, ne manquez pas d'y venir. Et quand même donné qu'il y a encore un film le samedi, c'est une comédie un peu, donc on va moins en parler, disons, on va moins intellectualiser autour de ce film. T'as envie d'en dire quelque chose ? Alors, disons quelque chose.
Et pourtant, Daniel à tort, parce qu'elle aborde tort, justement un des aspects du corps qu'on n'a pas encore traité, c'est-à-dire la digestion.
Ah, ben voilà, ça manquait, effectivement.
Et voilà,
et la constipation.
Oui.
Très bien, voilà.
Quand il s'appelle Picou, le film, hein, il sera 20h. Donc voilà, comme n'oublie pas de venir. Et il y aura à manger, il y aura un tas de choses à ce festival. On va, voilà, on s'amuse beaucoup à ce festival pendant 4 jours.
Et puis juste du mercredi au vendredi, il y a chaque fois un intervenant après le film, que ce soit sur le yoga, sur l'Ayurveda ou sur les Hijra.
Voilà qui est donné pour le cadre principal de ce festival Cinéma Sala qui commence dans quelques jours. Merci beaucoup à nos intervenants ce soir, aux membres du comité d'organisation de ce festival Cinéma Sala, Daniel Feller-Conus, Rosita Pastor et Nicolas Pozza. Merci beaucoup d'être venus ce soir.
Merci à vous.
Et puis également notre secrétaire général de l'Indian Association of Lausanne, Ruby Bakshi Kurdi. Merci.
Merci beaucoup.
Et puis voilà, toutes les représentations du corps, qu'elles soient scientifiques, populaires, esthétiques ou même philosophiques, restent soumises à des systèmes de pensée très diversifiés. Il n'y a pas de code unique de lecture, hein, Daniel.
Alors oui, effectivement, si l'Inde a contribué de façon extraordinaire à notre connaissance du corps, pour reprendre les mots de notre invité Daniel Feller, ses connaissances sont en devenir. Comme le précise le docteur de la clinique Agastya dans le film Ayurveda, un film à découvrir dans le cadre du festival Cinéma Sala. Notre savoir actuel de la vie est grand comme une poignée de terre. Notre savoir inconnu est grand comme la terre entière.
Voilà, du 8 au 10 novembre, découvrez l'Inde à corps perdu à Pôle Sud et à l'Université de Lausanne. Les lieux et les horaires de projection sont à retrouver sur le site avec le programme, le site du festival www.cinemasala.ch. Merci beaucoup Jean-Luc et merci à Daniel.